Soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris-Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.
Bonsoir, et toujours ici sur le rooftop dans le 18e arrondissement, dans un lieu magnifique. Le soleil s'est couché, donc on ne voit plus vraiment l'horizon, mais on voit la lumière de Paris, c'est magnifique. Voilà, d'avoir un environnement comme celui-ci pour fêter dignement les 20 ans. Voilà, on est passé par une période d'enfance, d'adolescence, et on entre dans l'âge adulte du Master 246 de l'immobilier. Je rappelle à nos amis le management de l'immobilier 4e édition qui est sorti. Procurez-vous-le, c'est la bible des professionnels de l'immobilier. Voilà, avec une préface du président de Paris Dauphine. On fait le tour un petit peu de la planète immobilière, mais pas que, avec des professionnels en activité. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, je crois que c'est la première fois qu'il vient sur le plateau, Christian Delaire.
Ouais, bonjour.
Bonsoir
Christian. Très heureux.
Christian, vous êtes senior advisor chez Atland.
Entre autres, c'est ma principale activité, mais j'ai d'autres activités à côté. Je suis administrateur indépendant de Foncier à côté, donc Ovivio en France. J'ai deux, trois missions en plus et j'ai le plaisir d'être enseignant aussi dans le cadre du master.
Voilà, merci en tout cas d'être avec nous. Un petit clin d'œil à mon ami Georges Roquetta, que là, s'il nous écoute, bon, je doute qu'il nous écoute à 22h30, mais il pourra avoir le podcast. Merci en tout cas d'être avec nous, Christian. On va parler, bien sûr, de la ville et de la ville qui est en train de se transformer durablement. Avec nous, pour parler justement de ces sujets de la ville, d'immobilier, en plus j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Gecina. En l'occurrence, il est directeur général adjoint en charge des finances chez Gecina. Nicolas Dutreuil est avec nous. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Sylvain.
Comment ça va?
Très bien, merci. Quelle belle soirée.
Ah ouais, une soirée. Alors vraiment, il y a tous les indices, on s'accroche toutes les cases. Hein. Une vue de fou, incroyable. Un buffet très sympa, un bel espace. Vraiment, c'est un...
Et un intervieweur formidable.
Et je connais tout. Merci.
Il y a un bruit de dingue.
Hein. Merci. Et ça nous met dans une bulle. Ouais. L'avantage de la radio, on ne pourrait pas faire de la télé là par contre. Hein. Par contre, en radio, ça nous met un peu dans une bulle. Alors, on va parler aussi énergie. Alors, c'est important l'énergie, bien évidemment. Surtout compte tenu du calendrier sur lequel il n'y a plus de débat autour de ce sujet. Vous savez à quoi je fais allusion, les amis, puisque j'ai beaucoup parlé du rapport du GIEC, puisque j'avais l'auteur du rapport du GIEC récemment dans les studios parisiens. On a parlé des problèmes d'énergie. Là, on va en parler avec des professionnels de l'activité. Il est le patron cofondateur de Verso Énergie et directeur général Antoine Huard.
Bonsoir.
Comment ça va, Antoine?
Bah, très bien, ravi d'être là.
Première fois sur Radio Immo?
Oui.
Ça ne sera pas la dernière, c'est promis.
Avec plaisir.
Voilà, il est le professeur aussi à l'université, il enseigne à l'université de Paris Dauphine dans le Master 246. Pour la partie promotion immobilière spécialisée retail, il est gestionnaire du patrimoine, il s'appelle Abel Mabou. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Comment ça va Abel?
Super.
Voilà. J'adore votre prénom.
Merci beaucoup.
Voilà, il est très évocateur. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, c'est intéressant de voir cette jeunesse, ces promotions, parce qu'à n'en pas douter, ces jeunes seront aux affaires demain. Ils dirigeront les entreprises. On a déjà une belle carrière que nous avons faite. C'est clair qu'on décrochera avant eux. Ils ont été formés sur le plan des compétences techniques, mais pas que. Leur esprit aussi a été formé avec une vision peut-être politique de la cité, de la ville et toutes les contradictions qui règnent autour. Des difficultés à vivre ensemble par l'hypermétropolisation, par le fait qu'on va aller de plus en plus vers une ville dense. Est-ce qu'il faudra qu'elle soit plus haute? Parce qu'à un moment donné, il faudra bien loger les gens. À l'heure où on ne veut plus d'étalement foncier. On ne veut plus... on est sur la fameuse circulaire ZAN, zéro artificialisation nette. Clairement, il faudra loger les Français. Et au même moment, on veut de l'espace. Au même moment, on veut de la perspective, de l'air, du verre, de l'eau. Et le Covid nous a enseigné finalement, quelque part, cette contrainte difficile, ce drame absolu. On a tous perdu quelques amis pendant cette période. Je rends hommage à un ami que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jean-Philippe Ruggieri, qui était le directeur général de Next City, qui était quelqu'un d'extrêmement inspiré sur l'immobilier. Je vais commencer par vous, Christian. Vous qui êtes un expert dans le domaine, connaissez bien le métier, qui avez l'expérience, qui avez vécu aussi les crises, qui avez vécu les mouvements cycliques qui sont presque inhérents à la nature même des actifs immobiliers. Est-ce que on a retenu les bonnes leçons du Covid? Est-ce que cette génération qui est en train de se former là aujourd'hui, seront aux affaires, qui sont déjà d'ailleurs aux affaires, pétris d'ambition, mais pas que, avec une vision porteuse de sens, peut-être porteuse d'espoir. Est-ce que c'est naïf de le penser ?
Alors moi je suis un enfant de la crise, j'ai commencé dans l'immobilier en 94.
Ah ouais.
Donc fallait être courageux quand même. Hein.
C'est sûr.
Je connaissais rien à l'immobilier, j'ai eu la chance d'être recruté par AXA à l'époque dans les équipes immobilières. Et donc je sais qu'il peut y avoir des crises, je sais qu'elles peuvent être profondes, qu'elles peuvent laisser des traces. Je sais aussi qu'il y a plein de gens très bons pour les analyser ex post, il n'y a pas beaucoup de gens pour les prévoir. Donc il faut être très humble dans l'exercice. Sur le Covid, je pense que j'ai lu beaucoup de choses sur le Covid, que le monde changeait, que le monde d'après serait différent du monde d'avant. J'ai lu beaucoup j'ai écouté beaucoup de gens qui avaient pas mal de certitudes. Et je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour conclure. Je pense que tout ça est très complexe. Il va y avoir des choses. Comme on le dit souvent, le Covid, c'est un accélérateur de pas mal de tendances sur les gens qui ne voulaient pas forcément travailler dans leur bureau, en tout cas qui avaient la possibilité de travailler ailleurs, sur des gens qui consommaient moins dans les magasins et qui consommaient aussi en ligne ou différemment ou de plusieurs façons en même temps, sur l'habitat qui devait évoluer, sur la logistique qui se développait parce que le e-commerce se développait. Il y avait déjà pas mal de choses qui étaient lancées. Que le Covid a accéléré, je pense qu'il est clairement trop tôt pour tirer le bilan de tout ça. On ne sait même pas d'ailleurs si la crise du Covid elle est terminée. Ce qui est sûr, c'est que dans le monde immobilier, il y a des cycles, il y a des crises, il y a des périodes de croissance, il y a des périodes de crise. On a eu la chance de connaître une période longue de croissance. Ça ne serait pas aberrant aujourd'hui d'avoir un retournement de cycle. Il y a quand même quelques indicateurs avancés qui nous le laissent penser. Les taux longs qui augmentent, l'inflation qui revient de façon peut-être galopante, la croissance qui n'est peut-être plus forcément là. Donc il peut se passer des choses, et ce qu'il faut, je pense, en matière immobilière, c'est être conscient du fait qu'il peut se passer des choses et se dire, bah tiens, si les marchés tout d'un coup décroissent, si c'est moins liquide, comment on fait ? Donc se préparer à ça sans avoir de certitude, mais en essayant de se forger des convictions.
Moi, j'aime beaucoup cette façon que vous avez d'aborder les choses, parce que c'est une certitude ou incertitude, il est bien question de ça, justement. Ça a ébranlé toutes les certitudes. Les faux prophètes qui avaient analysé les événements post-crise ou pré-crise se sont bien sûr beaucoup trompés. Donc, quelque part, s'il y a une chose qu'il faut retenir aussi peut-être, c'est que le Covid nous a enseigné une bonne leçon d'humilité. Justement, Nicolas, quand on voit effectivement... Et je voudrais vous lancer sur le sujet en vous disant la Terre est ronde, c'est un cercle. Une fois qu'on a fait le tour du cercle, on revient au point de départ. On a peut-être cru que la prospérité était infinie. C'est pas forcément le cas.
Je sais pas si on a cru qu'on était sur un cycle de prospérité infinie, mais ce qui est clair, et comme le soulignait Christian, c'est que cette crise, elle a accéléré des tendances qui existaient déjà. Elle nous a appris, je suis totalement d'accord, l'humilité également. Et je rajouterais qu'on a bien vu toutes ces conclusions hâtives qui ont été tirées dans les semaines qui ont suivi le démarrage de cette crise. Et dont on voit finalement que, oui, le monde de demain ne ressemblera pas à celui d'hier, mais on retrouve quand même un certain nombre de choses qui préexistaient. Et on le voit lors de cette soirée, les gens sont contents de se retrouver. Les étudiants que nous formons étaient très contents de se retrouver pour leurs cours. Mais ça veut aussi dire qu'il faut qu'en tant que professionnel de l'immobilier, on réfléchisse à la manière dont on construit, de manière, vous le disiez, plus verte, plus responsable. Peut-être plus central aussi. Et ça, c'est des choses, je pense, dont les étudiants du master ont clairement conscience.
Alors justement, on parle de ces étudiants qui vont fabriquer la ville de demain, hein, c'est clair. Alors vous, j'allais dire que vous êtes le cas, l'appartement témoin, le cas typique, puisque l'énergie aujourd'hui, c'est la dent creuse des sociétés modernes. Et on le voit avec l'envolée des prix du carburant, l'envolée des prix de l'énergie, on le voit avec les problématiques autour du pouvoir d'achat, et on voit d'ailleurs que le logement est vecteur, justement, et porteur de cet élément-là. On avait fait une analyse qui portait sur plusieurs dizaines de milliers de cas, sur les personnes qui payaient leur loyer, vous savez, et en fait, on a identifié à un moment donné, on décroche, finalement, en contentieux, lorsqu'on ne paye plus son loyer. Le premier poste de décrochage, c'est l'énergie. Et on sait qu'après avoir décroché sur l'énergie, le loyer suivra derrière, quelque part. Donc c'est intéressant de voir à quel point cette notion d'énergie, et bien sûr je m'adresse à vous, cette notion de vision de l'énergie moderne, innovante, apaisée, avec des émissions de carbone maîtrisées, parce que clairement, il n'y a plus de débat. On va entrer dans un nouveau siècle qui va nous faire comprendre que ces énergies-là seront nécessairement renouvelables. On doit produire de l'énergie à l'infini pour le coup, clairement. Quand on crée une entreprise comme vous pour Verso Énergie, qui vous adressez à des gestionnaires d'actifs sur des volumes très importants, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui avec ce formidable chantier à la fois de rénovation énergétique, la loi climat et résilience du 21 août 2021, l'ART 2012 remplacé par l'ARE 2020, le décret tertiaire pour l'immobilier, tout ça, est-ce que c'est du pain béni pour Verso Énergie? Est-ce que ça vous pousse à innover, Antoine?
Très clairement, enfin, il y a clairement un contexte, et vous l'avez rappelé, il y a eu la crise du Covid a été une prise de conscience finalement de la vulnérabilité d'un certain nombre de sujets. Et bon, on a beaucoup parlé des masques, mais je pense que l'énergie, il y a eu une prise de conscience qu'on était dépendant d'un certain nombre de sujets. Et malheureusement, la crise actuelle avec l'Ukraine confirme aussi cela. Donc la montée des prix qui en résulte doit nous amener à transformer profondément la façon dont on aborde l'énergie aujourd'hui. Dans toutes les sociétés et en France notamment, et finalement ça s'inscrit en parallèle dans un contexte de révolution absolument majeure qui passe assez sous silence en réalité en France, parce qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir une électricité décarbonée, mais dans le monde 90% des nouvelles capacités électriques raccordées chaque année, c'est du renouvelable, et ça peu de gens le savent. Et en fait, ah oui, cette révolution, elle a lieu depuis 10 ans silencieusement, on le voit pas, mais les renouvelables sont en train de prendre une place majeure dans le mix énergétique mondial. Et pour que ça puisse marcher, il ne va pas falloir se contenter de l'électricité renouvelable avec le solaire et l'éolien. Il va falloir aussi s'attaquer au problème du transport, c'est-à-dire le diesel qui sert dans les camions.
Vous avez dit solaire et éolien, je peux rajouter nucléaire aussi ou...
Oui, bah le nucléaire, c'est une énergie décarbonée. Oui, oui. On en a en France, mais il n'y a pas tous les pays qui en ont.
Éolien, hein. Éolien. Il y a aussi d'autres sujets. De production d'énergie de proximité, la méthanisation par exemple. L'hydrogène, voilà.
Voilà, alors l'hydrogène, c'est un vecteur qu'on peut en fait produire à partir d'électricité renouvelable. Et ça, c'est quelque chose d'absolument majeur comme révolution qui arrive là. Donc en fait, la décennie écoulée a été la décennie de la révolution du renouvelable, et la décennie qui vient va être la décennie de la révolution de l'hydrogène. On va utiliser l'électricité renouvelable qu'on va produire massivement pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène et ne plus dépendre de l'importation de carburants fossiles pour un certain nombre de sujets sur lesquels aujourd'hui on n'a pas d'autres solutions, comme la mobilité lourde. Donc évidemment, pour la mobilité légère, il y a des véhicules électriques avec des batteries, mais pour la mobilité lourde, les camions de la logistique qu'on évoquait tout à l'heure, il va falloir trouver autre chose que les batteries, parce qu'il faudrait plusieurs tonnes de batteries dans un camion pour pouvoir faire les distances qu'ils ont à faire.
Pardonnez-moi, Antoine,
et ce sera l'hydrogène.
Mais quand vous dites être indépendant, est-ce que j'entends le mot dépendance à des personnes ou des pays qui nous fournissent de l'énergie? Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr, c'est exactement ça.
Donc je peux dire le nom quand même. Donc,
dites-le.
Donc là, quand on voit aujourd'hui que la Russie menace l'Europe de fermer le robinet, vous, ce que vous dites, on est capable de produire notre énergie pour éviter cette dépendance.
Exactement. Et non, c'est pas moi qui le dis.
Moi, je dis
l'Europe,
bravo. Hein.
L'Europe met des milliards aujourd'hui pour fabriquer de l'hydrogène pour réduire notre dépendance à ces pays. C'est exactement ça.
Bravo. C'est un sujet, c'est fou, c'est un sujet, mais hautement important. Justement, l'habitat, le logement, consommateur d'énergie, comment vous faites le joint avec les professionnels qui sont avec nous? Alors, vous y êtes très sensible, bien évidemment. Quelle est la proposition de valeur, j'allais dire, le verso énergie par rapport à des portefeuilles? Alors, moi, je prends le cas de Jessina parce que Jessina était la première foncière à avoir converti la totalité de son portefeuille obligataire, vous savez, en obligation vers les green bonds. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, pour une fois, on a une entreprise cotée qui a dit, en dehors des ratios extra-financiers, je vais y intégrer autre chose. Plus humain, plus transversal, plus équitable. Et moi, je trouve ça remarquable. Hein. Moi, je vous le dis. Ça, d'ailleurs, ça a fait une traînée de poudre. Parce que vous avez vu, tout le monde s'y met en ce moment. Hein.
Il y a même voilà. Des gens qui appellent ça faire une Jessina.
Ah oui, clairement. Antoine, dites-moi.
Oui, non, on travaille vraiment, j'allais dire, main dans la main avec les professionnels de l'immobilier. Parce que c'est deux mondes qui doivent travailler ensemble.
Vous leur fournissez des solutions?
On leur apporte des solutions, mais surtout on travaille ensemble pour développer des projets qui intègrent la dimension énergétique. Mais je prends l'exemple.
Prenons l'exemple
d'une zone logistique ou d'un parc d'activités avec des entreprises. Aujourd'hui, on ne peut pas développer une... Enfin, il me paraît très fragile de développer une zone logistique pour accueillir des camions qui vont transiter là-dedans sans prévoir l'hydrogène comme intégré directement dans la zone logistique. Or, souvent, les professionnels de l'immobilier n'ont pas forcément, et c'est normal, la compétence pour développer des projets d'hydrogène. Et nous, on n'a pas de compétence pour développer des projets de logistique. Donc, on est, entre guillemets, amené à travailler ensemble là-dessus parce que en 2035, la vente de camions diesel sera plus autorisée. Donc, il faut préparer cet avenir-là. Les zones à faible émission, elles entrent en 2024 en vigueur dans beaucoup d'endroits. Les camions vont devoir se décarboner rapidement et massivement. Si les zones logistiques ne s'équipent pas avec ce combustible de demain qu'est l'hydrogène, ils n'auront pas de solution.
En fait, vous êtes un des éléments majeurs, central, de la construction, de l'aménagement du territoire.
On est une des briques.
À usage logistique, retail ou autre d'ailleurs, quand on y réfléchit.
Alors pour ce qui est de nous, les deux principaux marchés sur lesquels on est, c'est la mobilité lourde, donc logistique, mais ça peut être routier, ferroviaire, fluvial, etc.
Ouais.
Et puis l'industrie, parce que l'industrie aussi a besoin d'hydrogène pour remplacer le gaz importé et le charbon.
Et alors, on est sur des marchés à dominante professionnelle, sur ce qu'on appelle du B2B, B2B hein, on peut le dire. L'approche particulière, non, c'est pas le sujet de Verso.
C'est pas le sujet de Verso. En revanche, c'est un sujet majeur également et il existe aujourd'hui une...
Voilà. Mais est-ce qu'un jour, on verra peut-être chez Verso un département particulier qui proposera des fournitures des alternatives à l'énergie.
Je suis convaincu que l'hydrogène va arriver partout et in fine, pourquoi pas utiliser l'hydrogène un jour chez le particulier pour le chauffage, pour la mobilité du particulier, bien sûr.
Il faut qu'on fasse des plateaux, Antoine. Vous savez qu'on a lancé Carbone 14, Carbone Zéro, la radio, sur la transition énergétique. C'est un vrai sujet. Justement, Abel, les étudiants, vous les connaissez bien. Ils sont formidables, ces gamins, parce que vous ne trouvez pas qu'ils ont une maturité que nous n'avions pas quand on avait 20 ans. Moi, je trouve qu'ils ont une vista, une énergie peu commune. Est-ce que c'est caractéristique de cette génération dans le monde dans lequel on vit ?
Moi, je crois que effectivement la génération là, récente, elle nous bouscule. Elle nous interroge d'ailleurs. Elle nous bouscule. Elle rentre dans un autre rapport, peut-être pas de force, mais un rapport de questionnement, avec une vraie vision. Voilà. Donc, ils nous posent la question de nos expériences, mais ils savent très bien ce qu'ils veulent. C'est ne pas refaire ce qu'on a déjà fait. Voilà. Donc c'est plutôt eux qui nous embarquent, en fait. On a toujours tendance un peu à dire, tiens, on va vous embarquer dans des projets ou dans notre propre vision. Non, c'est plutôt l'inverse. Ils nous disent, non, voilà nous ce qu'on veut. Voilà où on souhaite aller. Donc on est dans un phénomène un peu inverse de nos rapports. Donc c'est ça qui est assez stimulant.
Est-ce que ça change, Abel, est-ce que ça change la façon d'enseigner ?
Bien sûr.
Est-ce que finalement cette interactivité qui se crée, parce qu'en fait on parle d'interactivité, il challenge. D'ailleurs, Internet a nourri de connaissances, dans le bon sens du terme, hein, quand on s'en sert bien, ça a invité la connaissance dans des lieux. Et donc quand ils viennent en cours, ils ont déjà un très bon niveau de culture.
Oui, absolument, parce que on est très clairement aussi dans un échange qui est multilatéral. On a plein de supports. Vous voyez. Et puis au-delà de ça, c'est que ce dont ils ont besoin. Lorsqu'ils rentrent dans une école comme Dauphine, qui a aussi sa notoriété, sa réputation, donc il y a un degré d'exigence. Même pour l'élève, il se met aussi dans une position aussi, pas exclusivement d'attente. Donc il a déjà fait un travail de prospection, vous voyez, il a déjà fait un travail d'exploration. Donc ce qui fait qu'il vous met dans une position dans laquelle son degré d'exigence est un peu plus important qu'ailleurs. Voilà. Donc tout en sachant que nous-mêmes aussi, on est à l'intérieur donc de cette représentation dans laquelle on se fixe aussi un autre degré d'exigence pour nous-mêmes, vous voyez, parce qu'on a aussi une obligation de délivrance qui est un peu plus importante.
Finalement, ces étudiants vous enseignent beaucoup de choses.
Bien sûr, bien sûr, parce qu'ils sont clairvoyants.
Mais oui.
Voilà, ils sont clairvoyants. Moi, j'ai deux filles. Mes filles, elles me bousculent. Voilà, elles m'interrogent, elles m'interpellent. Donc, elles m'obligent aussi à déconstruire ce que j'ai déjà appris. Pour entrer aussi dans un autre process dans lequel je dois aussi être...
Alors moi je fais partie d'une génération où on m'a enseigné... Dans ma première vie, j'étais compagnon du devoir, vous imaginez. Donc je faisais... Ouais. J'étais boulanger. Je faisais 15 heures par jour. Bon, après je suis devenu avocat, ça a été une erreur de parcours, mais bon, ça a été particulier. Mais on m'a formé pour travailler. On m'a vraiment formé pour travailler. Aujourd'hui, quand on les interroge, le travail, c'est pas leur marqueur essentiel.
Non.
Ils intègrent un projet de vie. Est-ce que ça, vous confirmez cette tendance chez cette jeunesse en disant le travail c'est bien, mais j'ai une vie à plusieurs piliers et le travail ne me définit pas socialement uniquement par ça.
Oui, c'est un autre statut. Voilà. Alors, il est vrai que nous, on est dans un schéma représentatif qui nous a été donné par nos grands-parents, nos parents, avec une certaine matrice. Vous voyez. Donc là, nos étudiants, eux, ils ont un autre schéma représentatif qui est à la fois... Voilà.
Est-ce que ce système de représentation a considérablement évolué?
Oui, parce qu'on ne travaille pas exclusivement pour manger, entre guillemets. Parce que le travail n'est pas exclusivement aussi un salaire, un revenu. Il l'est. Il l'est quand même. Mais aussi, il y a d'autres défis. Voilà, c'est aussi ce...
C'est pas uniquement ce marqueur social qui les caractérise.
Non, c'est aussi d'aventure. Voilà. Alors justement... Antoine vit une aventure, vous voyez. Quand j'ai créé AB Patrimoine avec ma femme, c'est aussi une aventure. Donc on s'est dit, tiens, on va lancer un petit truc parce qu'on y croit. Et puis parce que, tiens, ça nous plaît. Et puis on se fixe à deux une vision à très long terme. Parce qu'on a des enfants et on aimerait leur donner quelque chose, leur apporter quelque chose qui est un projet... de réalisation, mais commun.
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous parlez de projet d'entrepreneuriat, et c'est vrai que parfois être entrepreneur ici, en France, ça tient parfois du sacerdoce. Quand on a créé le groupe Web Radio Audition, parce qu'aujourd'hui on a 6 radios thématiques avec mon associé Olivier Lucas, personne n'y croyait, mais j'avais 50 ans à l'époque, il y a 7 ans. J'avais 50 ans, et un jour, il y a un jeune qui me dit « Monsieur Lévy, vous montez une start-up, vous avez 50 ans. » Et ça m'a donné une idée de faire une émission. J'ai 50 ans, j'ai monté une start-up et je vous emmerde. C'est-à-dire que, en fait, pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour créer son entreprise, qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, et moi, je trouve extrêmement courageux ce que vous avez fait, Antoine, parce que ça demande quelque part, je dirais pas de la conscience, mais comme dirait au sens de Diderot, de la témérité. Christian, justement, vous qui avez une grande expérience, l'entrepreneuriat, c'est clair que ça vous parle, hein. Est-ce qu'on va brancher les micros?
Alors, l'entrepreneuriat, ça me parle, mais j'avais pas du tout le courage de me lancer dans une entreprise entrepreneuriale. Donc moi, mon entrepreneuriat, c'est moi.
Vous l'avez fait dans l'entreprise aussi, hein. Alors, vous avez été entrepreneur.
J'ai fait de l'intrapreneuriat, comme on dit. Ouais. Donc ça, je l'ai fait chez AXA, chez EW, chez Generali. Enfin, pas très longtemps chez Generali. Mais après, la création d'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est moi. Donc c'est tout seul. Donc c'est un peu égoïste comme démarche. Mais je me rattrape parce que je travaille quand même pour d'autres après. Mais non, j'ai pas eu le courage de lancer un business, de recruter des gens, de partir sur un business plan, des objectifs commerciaux, des objectifs financiers. Je voulais plus de ça. En revanche, j'avais une quête de... C'est la crise de 40, 50, pas loin de 50. Quête de sens, qui suis-je, au cours, etc. Et les réponses ont été assez faciles j'avais une idée très claire de ce que je voulais plus faire et finalement une idée assez claire de ce que je voulais faire. Donc continuer à travailler pour des gens que j'aimais bien, que je respectais, qui avaient des idées que je trouvais intéressantes, dont Atland. Travailler pour plusieurs environnements, notamment des conseils d'administration que j'ai à côté. Avoir un petit peu de temps pour faire de l'enseignement, ce que je fais dans le cadre du master, que je trouve absolument génial pour toutes les raisons qu'on a indiquées, avec des étudiants qui vous poussent.
Vous êtes dans quelle discipline ?
L'investissement.
L'investissement.
Et puis je voulais du temps aussi pour faire du caritatif et le faire vraiment bien. Donc j'étais dans une logique de transmission. C'est ce que je fais depuis 6 ans maintenant. Donc on peut appeler ça de l'entrepreneuriat. C'est ma forme d'entrepreneuriat. Et pour rien au monde, je repartirais dans des jobs comme ceux que j'avais avant.
Moi, je trouve que c'est une formidable leçon d'humilité. Merci Christian. Chez Justina, vous avez une particularité. Vous aimez beaucoup la formation. Et surtout, vous laissez la chance aux jeunes, quelles que soient leurs conditions, j'insiste, parce que vous prenez des alternants, et l'alternance, ça permet de financer les études, de travailler, parce que tout le monde n'a pas les moyens ou d'avoir des parents qui font dans les études. Moi, je trouve que l'alternance, c'est une troisième voie pour l'éducation. Moi, je voudrais qu'on félicite Jessina et qu'on remercie ces entreprises de jouer le jeu à ce point-là. Vous avez conscience de l'importance de cette jeunesse ? Nicolas.
On en a conscience, bien entendu, mais c'est aussi quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important, puisque ces jeunes nous apportent énormément. Ils nous apportent énormément, c'est énormément d'énergie, c'est de questionnement qui viennent là aussi, on en parlait, bousculer les équipes dans leur quotidien et nous obliger à nous reposer des questions. Et d'ailleurs, ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur l'entrepreneuriat joue aussi beaucoup sur la manière dont on accueille les jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas chercher la même chose qu'on pouvait chercher peut-être nous quand on rentrait à notre époque dans de grands groupes, mais il faut leur proposer des challenges, une certaine liberté, qu'ils trouvent un espace, leur proposer des rotations à l'intérieur de la société pour qu'ils découvrent des choses, mais pour qu'ils se forment et qu'ils continuent de se former dans nos groupes si on veut pouvoir les garder et les faire grandir. Donc oui, effectivement, l'entrepreneuriat et l'alternance sont des choses qui sont extrêmement importantes pour nous.
Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'en France, on a cette chance de l'éducation, parce que j'ai pas de honte à le dire, mais l'alternance m'a permis de finalement de passer moi dans ma vie d'un statut d'ouvrier où, alors, je ne dis pas que j'étais condamné par un système, mais à faire des études supérieures, à faire 10 années d'études supérieures. C'est pas neutre. Quand on est sorti de l'école à 14 ans, c'était pas évident. Mais on est dans des dispositifs qui permettent l'émergence finalement de ces chances-là. Et la ville, dans sa globalité, elle est porteuse. Moi, ce que j'aime beaucoup en ce moment, c'est l'idée qu'on se fait de l'immobilier. Porteuse de l'idée dans l'éducation, de loisirs, de choix de vie, de rapport entre l'emploi et le logement, de mobilité plus apaisée, plus douce, moins agressive. Enfin, on se rend compte, et là, du coup, l'énergie a un rôle majeur, que quelque part, ça apaise quand c'est bien vécu. Et pourtant, j'ai envie de vous parler, alors je profite de votre présence, Antoine, du rapport du GIEC, hein, vous savez, qui a été publié, vous l'avez lu et relu, bien sûr, tous. On a reçu l'un des rapports, des auteurs de ce rapport dans nos studios. C'est vrai que c'est flippant quand on y réfléchit. Quand on lit, alors je caricature un peu, mais quand on dit, voilà, réversibilité possible dans les 3 prochaines années, Antoine, ça fait un peu peur. Alors, sans faire la méthode Coué, est-ce qu'on est vraiment dans un champ de réversibilité réelle, d'inversement, quand on a conscience, justement, à l'instar de ce que dit Nicolas, de ce que dit Christian, Abel, justement, sur cette prise de conscience que nous avons tous, est-ce que clairement, on aura le temps de le faire? Est-ce que vous percevez, parmi vos partenaires, une vraie envie d'aller vers cette transformation environnementale énergétique?
Alors, une envie d'y aller, ça, c'est sûr. Elle est de plus en plus là, parce que maintenant, c'est un sujet qui ne peut plus être évité. Sans être du tout un expert du climat, mais en revanche, on est dans la transition énergétique. Et je pense que finalement, il n'y a pas à hésiter. C'est-à-dire, il n'y a pas à se dire, est-ce qu'on n'a plus le temps, donc on ne le fait pas. Nous, en fait, chaque dixième de degré va compter. Donc, l'enjeu, c'est d'aller le plus vite possible pour se débarrasser des combustibles fossiles et les solutions existent. C'est ça quand même. Alors moi, je pense qu'il y a deux. Enfin, il y a un écueil, c'est de se dire que les solutions n'existent pas, qu'il faut être dans le décroissantisme et renoncer. Renoncer, c'est nous condamner au diesel et au carburant ad vitam aeternam. Il faut pas non plus croire que la technologie va tous nous sauver. Mais en revanche, prendre ce qui existe aujourd'hui et au moins faire ce qui existe aujourd'hui, comme les renouvelables, l'hydrogène. Il ne s'agit pas de faire des paris technologiques, ça existe. Donc il faut juste le faire, et le faire aussi vite que possible. Et en France, pour citer un seul exemple, il faut aujourd'hui parfois plus de 5 ans pour avoir un permis de construire pour faire une centrale solaire, qui est quelque chose qui n'artificialise pas le sol et qui est complètement réversible. Ouais. Eh bien, il faut ramener ce délai à 1 an. Ce n'est pas compliqué, il faut ramener à 1 an. Et pas un parc éolien, il faut 10 ans, il faut le ramener à 1 an aussi. Ça fait peut-être pas plaisir aux gens l'éolien, mais si on ne fait pas non. Ça, on va continuer à brûler du gaz. Donc c'est un choix. Après, c'est un choix de société.
L'immobilier, Christian, est-ce qu'elle a fait sa révolution à ce sujet? Est-ce qu'il y a encore des débats autour de ça?
Non, alors oui, alors si vous faites un petit peu une classification simpliste entre les investisseurs courts et les investisseurs longs, c'est sûr que les investisseurs courts se posent moins de questions que les longs, sûrement. Ce qui est sûr, c'est que globalement, on est dans un secteur où, malchance ou chance, on est un gros émetteur de dioxyde de carbone.
Donc le deuxième au monde après le transport, hein, c'est bien ça.
Voilà, c'est 30 ou 40%, c'est mais ça. En tout cas le bâtiment, ça émet beaucoup, à la fois la construction, l'exploitation. Ouais. Donc il faut agir. Je pense qu'il faut le faire en ayant conscience de la contrainte de temps, mais sans être non plus paralysé par la contrainte de temps, parce que si on réfléchit trop à la contrainte de temps, on peut se dire ça ne sert plus à rien, on ne fait rien. Je pense qu'il faut agir, vite et bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur les modes de construction, les modes d'exploitation, les partenariats qu'on peut construire avec les occupants. C'est quand même un des gros postes de consommation d'émissions, c'est quand même l'exploitation et l'occupation. Donc le partenariat propriétaire-exploitant, il est hyper important. Il y a énormément de choses à faire. Il y a plein de sociétés qui mettent en place des comités. On les appelle ISJ ou ISR ou etc. Ils sont importants, et c'est plus des choses pour faire joli sur une plaquette.
Vous voulez dire que la façon dont on consomme doit être facteur aussi de réduction de l'impact énergétique, en fait.
Ah bien sûr. Bien sûr.
C'est intéressant.
Je sais pas si
modifier la façon dont on consomme.
Contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur ma culture voiture, je sais que si vous faites un Paris-Marseille en Ferrari en première, vous allez consommer beaucoup. Et si vous utilisez bien la boîte à vitesse, vous allez consommer beaucoup moins. C'est un peu pareil sur un immeuble, donc en fonction de la façon dont il a été construit, vous allez pouvoir l'exploiter de manière différente. Il y a vraiment des façons intelligentes d'exploiter de l'immobilier, de consommer et d'émettre beaucoup moins. Et il faut faire ça. On a un rôle moteur là-dedans en tant qu'investisseur, propriétaire de tout ça. L'exploitant a un rôle hyper important aussi. Et je pense, pour répondre à votre question, qu'il y a une prise de conscience qui est générale, qui est hyper importante. On est très surveillé par les marchés financiers. Donc le privé a un vrai rôle à jouer là-dedans. Et il faut s'y mettre. Hein.
Oui, Nicolas.
Pour rebondir sur ce que dit Christian, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quelques années, les acteurs de l'immobilier qui avaient pris conscience de ces enjeux étaient certainement un peu en avance sur leur temps et le faisaient plutôt par conviction que pour d'autres raisons. Et finalement, cette conviction, aujourd'hui, on s'est fait rattraper par un certain nombre de choses. On le voit bien, d'abord la réglementation. Vous parliez tout à l'heure des réglementations, que ce soit des réglementations au niveau du bâtiment ou, on le voit, des réglementations financières avec la taxonomie qui va quand même rattraper un certain nombre d'entreprises dont les coûts de financement vont être extrêmement variés en fonction de la prise en compte ou pas de ces enjeux.
Des critères.
Exactement, dans la gestion de leur patrimoine. Mais moi, je trouve que ce qui est encore de plus important aujourd'hui dans cette convergence entre financiers et extra-financiers, c'est que c'est la demande des occupants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nos clients aujourd'hui qui, pour la plupart d'entre eux, nous demandent des immeubles de plus en plus vertueux. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que finalement, l'utile rejoint l'agréable. Et ça, c'est fondamental parce que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à transformer les choses.
Abel, vous vouliez ajouter tout à l'heure ?
Non, en fait, tout à l'heure, je voulais juste ajouter que le fait que c'est réellement l'immobilier qui est le premier contributeur. Quand on regarde la chaîne de valeur des émissions, entre l'immobilier dans lequel vous avez à la fois la construction, les extractions de minéraux, la construction, ensuite vous avez son exploitation, vous êtes à pratiquement 40% en termes de taux d'émissions.
Ouais, ça c'est, donc, cool, c'est très clair.
Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc s'il faut ajouter en plus la mobilité, ça veut dire que vous êtes quasiment à peu près, vous voyez, à 70%. Vous avez deux grands secteurs qui sont la construction, l'immobilier, son exploitation et ensuite avec la mobilité, parce que forcément les gens utilisent la mobilité pour aller travailler, pour aller consommer, pour aller à différents endroits. Voilà. Là, vous avez deux grands pans.
Moi, je me rappelle, est-ce que vous vous rappelez de René Dumont qui faisait campagne écologique dans les années 70 aux élections présidentielles, qui se pointait avec un col roulé, qui disait on va la terre brûle, il faut faire une transformation. On le prenait un peu pour un rigolo un peu à l'époque. C'est incroyable comme certaines personnes peuvent aussi inspirer les mouvements. C'est pour ça que je qualifie parfois de ces mouvements d'anthropologie urbaine. Alors on va se quitter justement sur un mot et je vais vous demander quelque chose. Si vous deviez trouver un qualificatif ou un adjectif sur cette jeunesse, sur ce master, sur ce cursus d'excellence qui est porteur d'un immobilier de conviction, pour le rappeler, vous diriez quoi, Abel ? Le premier mot qui vous donnerait l'esprit ?
Je dirais aujourd'hui, c'est partage, voilà, partage et action.
Pas mal, partage et action. Antoine.
Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un dynamisme. Je pense au dynamisme. On n'a pas la chance d'avoir recruté des jeunes de ce master-là, mais chez Verso Energy, on a recruté des jeunes de cette génération-là, disons, qui sortent d'études. Et repartissant un dynamisme extraordinaire, ils veulent s'attaquer aux problèmes. Et ça, c'est une vraie chance pour une entreprise.
Un beau dynamisme. Christian.
Moi, je dirais que c'est cette jeunesse, elle est très exigeante.
L'exigence.
Et que si elle n'est pas satisfaite, elle zappe, elle va ailleurs. Donc il faut la satisfaire si on veut la garder quand elle est bonne, bien sûr.
On est d'accord, c'est le corollaire. Je reconnais bien le professionnel que vous êtes là-dessus. Nicolas.
Je dirais qu'elle fait preuve de beaucoup de curiosité et d'ouverture d'esprit.
C'est intéressant, de curiosité et ouverture d'esprit, quand on forme les esprits. Mais finalement, la connaissance, c'est deux mots. C'est naissance et c'est conscience. Donc finalement, la connaissance et le savoir, c'est pas autre chose qu'une conscience qui s'ouvre, effectivement, sans distinction, encore une fois, j'insiste bien, d'origine sociale ou de quelque nature que ce soit, parce que, justement, l'avantage que nous avons dans notre démocratie, c'est vrai que quand on le dit comme ça, aujourd'hui, dans le contexte géopolitique que nous vivons, ça a vraiment du sens, et c'est ça qui est porteur d'une conviction. Et l'immobilier est aussi vecteur de culture, de loisirs, d'éducation, il faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas que des capitalistes, vous n'êtes pas que des capitalistes. Aujourd'hui, grâce aux normes ESG, vous l'avez rappelé Nicolas, la taxonomie intègre des paramètres qui aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Si on veut gagner des appels publics, si on veut travailler sur des concours, il faut présenter finalement un capitalisme plus vert, plus noble, plus axé sur l'humain. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir tous les trois sur le plateau. Faites-moi le plaisir, venez nous voir au studio de Radio Imo. On est dans les lieux des anciens locaux du Parisien Libéré. Merci Nicolas Dutreuil, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint en charge des finances chez Gecina. Merci et longue vie à Gecina. Merci encore de faire ce que vous faites. Merci à Christian Delaire, senior advisor chez Atlant, mais pas que. Il est aussi membre de plusieurs conseils d'administration et nous éclaire de son expérience. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci Antoine Huard, cofondateur, directeur général de Startupper Nouvelle Génération pour l'énergie. En tout cas, merci encore une fois. Et venez nous parler d'énergie sur Carbone Zéro, la radio. C'est un vrai sujet aujourd'hui d'actualité. Et un grand merci à Abel Mahoub. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui à la tête d'un cabinet où vous faites de la gestion de patrimoine.
Non, c'est une foncière.
C'est une foncière.
C'est une foncière.
C'est une foncière qui s'appelle AB Patrimoine, que vous avez créé, vous m'avez dit tout à l'heure avec votre épouse. Et en outre, vous êtes chargé d'enseignement à Paris Dauphine pour la partie promotion pour le retail. Voilà. Merci en tout cas. Rappelez-vous, le podcast, il est téléchargé sur les radios IMO, mais aussi sur Deezer, Spotify, Orange et tous les agrégateurs de podcasts. Likez et commentez les posts que l'on va faire, notamment sur Twitter. Et bien sûr, posez toutes les questions. On se fera un plaisir de vous y répondre. Les URL, les entreprises de nos amis ici présents, que ce soit Abel, Nicolas, Christian et Antoine, seront aussi attachés au podcast si vous voulez en savoir plus sur leur activité. Merci messieurs et longue vie au Master 246 de Dauphine.
Soirée des 20 ans du Master Immobilier de l'Université Paris Dauphine, jeudi 12 mai 2022 sur Radio Immo.